Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus d'un Québécois sur deux s'est privé de consulter un médecin dans la dernière année. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 mars 2025 dans Le Devoir. Le Collège des médecins du Québec sonne l'alarme. Les problèmes d'accès aux soins sont de plus en plus grands dans la province. Au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié des Québécois ont affirmé avoir vécu une situation où ils se sont privés de consulter un médecin, alors qu'ils ressentaient pourtant le besoin de le faire, selon un sondage obtenu par Le Devoir. Du lot, près de 3 personnes sur 10 soutiennent avoir essayé de consulter, mais ne pas avoir réussi à obtenir de rendez-vous médical. Ces résultats sont préoccupants, estime le président du collège, le Dr Maurice Gaudreau, en entrevue. On avait posé les mêmes questions en 2022. C'était alors 40% des Québécois qui disaient avoir eu besoin de consulter un médecin au cours des 12 derniers mois et souhaitaient le faire, mais qui finalement ne l'avaient pas fait. Maintenant, c'est plus de 50%. Le problème d'accessibilité est donc encore plus important qu'il y a 3 ans, constate-t-il. Le sondage en ligne qui a été réalisé par la firme Somme pour le compte de l'Ordre professionnel a été mené auprès de 1031 adultes québécois entre le 28 février et le 10 mars 2024. Le coup de sonde a aussi été fait auprès de 1256 membres du Collège des médecins, ce qui correspond à environ 4,7% de l'effectif. L'ensemble des résultats sera présenté lors d'un webinaire. Selon l'exercice, plus de 8 Québécois sur 10 estiment qu'obtenir une consultation médicale sans rendez-vous dans le réseau est plutôt ou très difficile. Plus de 60% de la population et 40% des médecins jugent également qu'il est ardu d'avoir accès à des soins urgents dans un délai raisonnable. C'est très élevé, particulièrement quand on parle de la perception qu'a la population de l'accès aux soins urgents. Dans un système de santé idéal, on aimerait que les gens perçoivent cela comme étant facile, considérant l'urgence. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, soulève Vincent Bouchard, vice-président marketing chez Somme. La place grandissante du privé. En raison de l'accès difficile aux soins, la population se tourne de plus en plus vers le secteur privé en santé, souligne le Dr Maurice Gaudreau. Au cours des 12 derniers mois, plus du quart des Québécois ont dit avoir consulté un médecin au privé pour eux ou pour un membre de leur famille, selon le sondage. En 2022, c'était plutôt 14%. Ça a presque doublé en 3 ans, relève le président du collège. On sonne l'alarme à nouveau, car si on laisse aller cela, ce ne sera pas long avant qu'on se retrouve avec une médecine à 2 vitesses qui va faire en sorte que les Québécois, qui sont à l'aise financièrement, vont pouvoir se faire soigner plus rapidement que ceux qui le sont moins, avertit-il. Et les différents professionnels, lorsqu'ils sont dans le privé, ils ne sont pas là pour donner des soins dans le réseau public, poursuit le Dr Gaudreau. Il réitère donc que les services de soins de santé privés doivent être mieux encadrés. Le Collège demande notamment que la rémunération pour un même acte médical soit semblable au public et au privé. Actuellement, au Québec, ce n'est pas du tout réglementé. Il faut vraiment regarder cela de près, dit-il. Il est aussi nécessaire de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le système public, poursuit le Dr Gaudreau. Selon le coup de sonde fait auprès des membres du collège et de la population, l'une des avenues prometteuses pour améliorer l'accès aux soins est de favoriser la participation accrue de professionnels de la santé autres que les médecins dans le réseau, souligne Vincent Bouchard de Somme. Sollicité par Le Devoir au sujet du sondage, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, rappelle s'être engagé à ce que 100% des Québécois soient pris en charge d'ici l'été 2026. Pour y arriver, on a posé des gestes importants, notamment en créant le guichet d'accès à la première ligne et en donnant plus de pouvoir aux différents professionnels comme les infirmières praticiennes spécialisées, IPS, et les pharmaciens, détaille-t-il. Il ajoute vouloir encourager davantage la collaboration entre les médecins et les professionnels de la santé qui travaillent en première ligne. En décembre 2024, M. Dubé a également déposé un projet de loi qui vise notamment à obliger les nouveaux médecins fraîchement diplômés au Québec à pratiquer 5 ans dans le réseau public. Il souhaite ainsi freiner l'exode des médecins vers le secteur privé. L'étude détaillée du texte législatif devrait débuter sous peu. Méthodologie. Sondage auprès de la population. Les résultats ont été pondérés pour refléter la composition de la population québécoise en fonction du genre, de la langue maternelle, du plus haut diplôme obtenu, de la taille du ménage, du statut de propriété ainsi que de la région habitée. La marge d'erreur maximale pour l'ensemble des répondants est de 3,6% à un niveau de confiance de 95%. Sondage auprès des médecins. Les résultats de l'étude ont été pondérés pour s'assurer d'une bonne représentativité selon le genre, le statut, actif ou non, la spécialité, le lieu de pratique et le statut d'affiliation à la Régie de l'assurance maladie du Québec. La marge d'erreur maximale pour l'ensemble des répondants est de 3,8% à un niveau de confiance de 95%. C'était « Plus d'un Québécois sur deux s'est privé de consulter un médecin dans la dernière année », un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 mars 2025 dans Le Devoir.
La série qui répondait à nos peurs. Un texte de Chantal Guy, paru le 8 avril 2025 dans la presse. Rarement une série télévisée aurait-elle épousé les inquiétudes d'une époque comme « La servante écarlate », qui arrive enfin à sa conclusion dans cette 6e saison présentée sur Crave et Illico+. En particulier, celle des femmes qui ont vu leurs droits reculer comme jamais aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Librement inspirée du célèbre roman de Margaret Atwood du même nom, publié en 1985, The Handmaid's Tale, créée par Bruce Miller, a commencé son aventure en 2017, après la première élection de Donald Trump et le jeu de miroir entre la Syrie et cette présidence, qui est de retour en même temps que la dernière saison, n'a jamais cessé, même sous Joe Biden. D'une certaine façon, cette série est devenue politique par la force des événements qui secouent l'Amérique. En 2017, plongée dans une dystopie où les États-Unis ont sombré dans une brutale théocratie nommée « Gilead », après une dramatique baisse de la natalité causée par la crise environnementale, transformant les femmes fertiles en servantes forcées d'enfanter pour des familles puissantes, semblait une mise en garde poussée à l'extrême contre les dérives déjà à l'œuvre de la société américaine. Mais sa pertinence n'a malheureusement fait que se confirmer. Combien de frissons glacés dans cette série-là a-t-elle provoqué qui faisait écho à mes angoisses? Assez pour que le costume de la servante écarlate s'impose dans les manifestations, en tout cas. Je me souviens en particulier de la 2e saison, qui montrait en quelques souvenirs comment les droits s'effritent rapidement quand une dictature s'installe. La loi martiale est décrétée après une sanglante attaque terroriste contre le Capitole. Les femmes n'ont plus accès à leurs comptes bancaires et sont virées de leurs emplois. Les personnes LGBTQ sont pendues. Les journalistes sont assassinés. Un épisode complet se déroule dans les locaux ravagés du Boston Globe. Et les Américains qu'ils peuvent fuient vers le Canada. Tout ça nous était raconté avant l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, l'invalidation en 2022 de l'arrêt Roe v. Wade, qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle nationale, et les attaques actuelles contre les institutions et les universités, qui pourraient provoquer une fuite des cerveaux, notamment vers le Canada, dont Donald Trump voudrait faire le 51e État. Pendant 6 saisons, l'héroïne principale, June, fabuleuse Elizabeth Moss, qui tente de survivre sous le régime impitoyable de Gilead dans l'espoir de sauver sa fille Anna, aura été le visage de la résistance des femmes, du moins celles qui ne collaborent pas comme Serena Joy, impeccable Yvonne Strahovski. On a beaucoup râlé à propos de l'abus de gros plans sur le visage de June pendant son terrible chemin de croix, mais c'est devenu une signature de la série. La sidération, la colère, la douleur, la rage, l'amour, le courage, toutes les émotions de June étaient au fond les nôtres face aux outrages et aux combats à mener. Car oui, avec cet ultime chapitre, l'heure de la riposte a sonné et elle sera aussi écarlate que le costume des servantes. Solidarité féminine. En raison de la grève des scénaristes à Hollywood, la dernière saison a été retardée, mais elle reprend exactement là où s'était arrêtée la précédente, lorsque June et Serena se retrouvent l'une face à l'autre, leur bébé entre les bras, à bord d'un train de réfugiés en direction de l'Alaska. Ces deux-là ne pourront-elles jamais se réconcilier? On en doute, puisque June ne rêve que de détruire Gilead, dont Serena n'arrive pas à faire le deuil, la seule société, malgré tout, à la hauteur de ses ambitions de fondamentaliste chrétienne. Et Gilead a besoin de sa princesse dévote pour son projet de New Bethlehem, censé apporter des réformes, surtout pour séduire les gouvernements étrangers et renouer des liens diplomatiques. Mais accueillir un assouplissement des règles, ce serait encore cautionner Gilead, ce que June et son mari Luke, O.T. Fragbairn, et son amie Moira, Samira Wiley, n'accepteront jamais. Les coupables doivent payer. Et la résistance continue. Nick, Max Minghella, l'amant de June, devenu commandant, restera-t-il un allié? De même que l'architecte de ce système, Joseph Lawrence Bradley Whitford, qui voudrait tant réparer le monde horrible qu'il a créé. Ce serait oublier l'importance de la solidarité féminine dans The Handmaid's Tale, probablement la seule force qui peut contrer le patriarcat de Gilead. Ce n'est pas pour rien que le duel June-Serena est au cœur de cette histoire, quand l'union devrait être de mise. Et pourquoi on n'arrive pas à haïr tante Lydia, Anne Dodd, qui veut sauver ses filles tout en les soumettant? Les journalistes ont eu accès à 8 épisodes sur 10 au total. J'ai tout regardé en rafale, et je l'aurais fait même si je n'avais pas d'article à écrire, car cette série m'a profondément marqué, même quand elle m'exaspérait, parce qu'elle m'aura finalement accompagné dans la détresse ambiante. Après un départ plutôt lent, l'histoire nous mène de toute évidence vers un point culminant. L'épisode 8 nous tient en haleine du début à la fin, et ce sera un supplice d'attendre les 2 derniers. L'époque étant encore plus trouble qu'au début de la série en 2017. Une victoire contre l'obscurantisme, même dans la fiction, nous ferait du bien. The Handmaid's Tale, encore superbement réalisé, Elizabeth Moss signe d'ailleurs 4 épisodes, a toujours été une série hypnotique, comme pour nous réveiller du cauchemar étourdissant qui est devenu l'actualité. Elle a fait et fera date dans l'histoire de la télévision, en particulier par sa troublante synchronicité avec les temps présents. Si vous ne l'avez jamais vue, profitez-en avant qu'elle soit interdite. Parce que le livre de Margaret Atwood est déjà banni dans les bibliothèques de plusieurs États. C'était La série qui répondait à nos peurs, un texte de Chantal Guy, paru le 8 avril 2025 dans La Presse.
Un quart de siècle d'amour pour la jeunesse. Un texte de Kim Desormeaux, paru le 9 avril 2025 dans La Revue. La Fondation Bon Matin Jeannine Cossette, qui consacre depuis 25 ans son engagement envers la jeunesse, a marqué cet anniversaire de façon symbolique en organisant une activité spéciale le 14 février dernier en lien avec la Saint-Valentin. Fidèle à son slogan « Parce que je t'aime, je veux te gâter », la Fondation a offert une collation spéciale aux élèves de l'école primaire Saint-Louis de Terrebonne. Jeannine Cossette, accompagnée de ses bénévoles dévoués et de plusieurs invités d'honneur, a procédé à la distribution de ses douceurs. Parmi les personnalités présentes figuraient Gilles Bordonado, président d'honneur du 25e anniversaire, Robert Mercier, directeur de l'école lors de la création de la Fondation, ainsi que Michel Corbeil, maire suppléant de la ville de Terrebonne. Les conseillers municipaux Raymond Berthiaume et Daniel Aucoin, Christine Poirier, ex-directrice de l'école et actuelle directrice générale adjointe du Centre de services scolaires des affluents, ainsi que son collègue Éric Ladouceur, coordonnateur aux communications, ont également pris part à l'événement. Fidèle partenaire. Les Galeries de Terrebonne, un fidèle partenaire de la Fondation, ont profité de cette occasion pour renouveler leur soutien à l'organisme. Laura Jalbert-Paré, directrice marketing du centre commercial, a remis un chèque de 1 500 à Mme Cossette, soulignant ainsi l'importance de cette collaboration. L'événement a été l'occasion pour la présidente fondatrice de remercier les partenaires et le personnel de l'École Saint-Louis qui contribuent chaque année à la mission de la Fondation, qui est d'enrichir la vie des enfants en favorisant leur réussite scolaire et leur épanouissement personnel et social. Cette année anniversaire sera jalonnée d'activités éducatives, culturelles et sportives pour les élèves de l'École Saint-Louis, située au cœur d'un quartier moins favorisé. Un quart de siècle après sa création, la Fondation Bon Matin Jeannine Cossette continue d'apporter du réconfort et de semer l'espoir chez les jeunes de Terrebonne. C'était Un quart de siècle d'amour pour la jeunesse. Un texte de Kim Desormeaux, paru le 9 avril 2025 dans La Revue.
Dis-moi comment tu consultes Wikipédia, je te dirai qui tu es. Un texte de Raphaël de Rome, paru le 3 mars 2025 dans le magazine Québec Science. La manière dont vous consultez l'encyclopédie en ligne révèle-t-elle votre style de curiosité? Wikipédia a longtemps suscité la méfiance des universitaires qui la voyaient comme une source d'information peu fiable. Mais l'encyclopédie en ligne a fini par s'imposer parmi les sites les plus consultés au monde. Et avec des milliards de pages vues chaque mois, ces statistiques de fréquentation sont devenues une mine d'or pour la recherche en sciences sociales. Une équipe américaine s'en est servie pour étudier la manière dont les gens cherchent de l'information sur Wikipédia. Elle a obtenu les données de navigation sur 2 mois de 482 760 utilisateurs et utilisatrices anonymes de l'application mobile Wikipédia provenant de 50 pays et ayant consulté des articles en 14 langues. On examinait ensuite le degré de similitude entre les différents contenus consultés par chaque personne. Puis, on a créé un modèle mathématique pour décrire le comportement des participants et participantes. Selon les résultats publiés dans Science Advances en octobre 2024, on aurait démontré l'existence de trois styles de curiosité. Les chasseurs sont déterminés et centrés sur la tâche. Ils cherchent de l'information sur un sujet précis sans se laisser distraire pour combler leurs lacunes. Les butineurs papillonnent un peu partout, d'un sujet à l'autre, à la recherche d'informations nouvelles. Enfin, les danseurs font des bonds précis d'un domaine à l'autre. Ils ne virevoltent pas au hasard, mais créent des liens que d'autres ne font pas nécessairement. Béatrice Pudelco, professeure au département d'éducation de l'Université TELUC, qui s'intéresse à l'utilisation de Wikipédia en éducation, ne croit pas que les résultats de cette étude puissent être extrapolés à l'ensemble des recherches sur le web. En réalité, les gens ne se limitent pas à Wikipédia et seule une minorité d'entre eux la consulte par l'application mobile. Et l'interface très simple, sans publicité et presque dénuée d'éléments multimédia distrayants, affecte sans doute la navigation. Mais surtout, les auteurs de l'étude considèrent que la manière de consulter l'encyclopédie illustre un style personnel de curiosité, indique Béatrice Pudelco. D'autres scientifiques considèrent plutôt que ce comportement dépendra aussi des besoins et de la situation. L'heure du jour, par exemple. Une étude, non évaluée par les pairs, a montré que les pages Wikipédia qui traitent de sujets sérieux sont plus consultées durant les heures de travail, alors que les sujets populaires prédominent le soir. Béatrice Pudelco se réjouit néanmoins de constater un essor des recherches sur la curiosité depuis quelques années. En la comprenant mieux, on pourrait la stimuler plus efficacement à l'école ou aider les collègues à mieux collaborer. Gens du pays, à vos claviers. Si tout le monde peut contribuer à Wikipédia, en réalité, seulement un faible nombre de personnes, surtout des hommes, rédigent la grande majorité du contenu. Cela introduit certains biais. Ainsi, seulement 20% des biographies concernent des femmes. Et le faible nombre de Québécois parmi les contributeurs à la version française introduit un biais franco-français, déplore Michael David Miller, bibliothécaire de liaison à l'Université McGill. Aussi président de Wikipédia Canada, il milite pour que plus de gens d'ici participent à ce projet collectif. C'était « Dis-moi comment tu consultes Wikipédia, je te dirai qui tu es », un texte de Raphaël de Rome, paru le 3 mars 2025 dans le magazine Québec Science.
Mort du pape François, le souverain pontife touche-t-il un salaire? Un texte de Rémi Capra-Brocard paru le 22 avril 2025 dans « Ça m'intéresse ». Alors que le pape François s'est éteint à 88 ans, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les avantages financiers liés à cette fonction. Le chef de l'Église catholique percevait-il un salaire? Il était surnommé « le pape des pauvres ». Pourtant, comme vous et moi, le pape François avait le droit à un salaire. Salaire qui semblait tout droit descendu du ciel quand on le compare au nôtre. Un peu plus de 24 000 euros par mois. Enfin, cela aurait pu être sa paye s'il l'avait accepté. Dès son élection en 2013, contrairement à ses prédécesseurs, il a renoncé à toute rémunération. Comme l'indique The Economic Times, le pape François, chef de l'Église catholique, ne reçoit pas de salaire alors qu'il y a droit. Grand défenseur des plus démunis, des migrants, fidèle à son vœu de pauvreté en tant que jésuite, ce choix était cohérent avec son engagement en faveur de la simplicité et de l'humilité. Une fortune de 16 millions d'euros. Traditionnellement, un pape peut percevoir environ 32 000 $ mensuels selon The Economic Times, soit près de 290 000 euros par an. Oseille divin qu'il a donc de suite balayé. Bon, il ne vivait évidemment pas dans l'austérité. Le Vatican, de son côté, prenait en charge toutes ses dépenses, logement, soins, alimentation, chauffeur et voiture de fonction. Selon The Mirror, son patrimoine était évalué à 12 millions de livres, environ 16 millions d'euros, un montant lié non pas à des revenus personnels, mais aux biens mis à disposition du pape, comme ses appartements, ses véhicules ou encore ses effets pontificaux. « Je suis venu en bus, donc je rentrerai chez moi en bus. » Loin des ordres du Vatican, François a choisi de vivre à la résidence Sainte-Marthe, une modeste suite de deux pièces, au lieu du vaste palais apostolique. Il mangeait dans le réfectoire commun et avait troqué la limousine officielle pour un minibus. « Je suis venu en bus, donc je rentrerai chez moi en bus », avait-il déclaré après son élection en 2013. Même sa bague papale, le traditionnel anneau du pêcheur, était une version en argent doré et non en or massif, symbole de sa volonté de rompre avec le faste habituel du Saint-Siège. Un contraste fort avec la fortune du Vatican. L'ascétisme personnel de François contrastait fortement avec les immenses ressources du Vatican. À l'échelle institutionnelle, le Saint-Siège détient plus de 5000 propriétés dans le monde entier, dont près de 4000 en Italie, détail Capital. Mais aucun des biens liés à sa fonction ne lui appartenait en propre. Quant à son testament, il n'a pas encore été rendu public. Historiquement, les papes lèguent leurs possessions à la curie romaine. Le sort de ses effets personnels, modeste, sera décidé par le Collège des cardinaux. C'était « Mort du pape François. Le souverain pontife touche-t-il un salaire? » Un texte de Rémi Capra-Brocard, paru le 22 avril 2025 dans « Ça m'intéresse ».